qui n'était peut-être qu'une mystification.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est maintenant avec Daniel Mermet. Allez hop.
À l'occasion de la journée de la femme et dédiée à Francine, loisir. J'étais tellement amoureux d'elle que j'avais dû, pour la séduire, balayer et faire la vaisselle. En bref, partager ses loisirs. Mais non, mais je déconne, oh là là.
Eh bien, bonjour, c'est Agathe de Citroën. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc fallait bien que je laisse un message. C'était pour dire que notre grève continue, on est toujours aussi déterminés. On a en face de nous notre patron, mais évidemment aussi le gouvernement là qui ne se bouge pas du tout. Donc on va continuer à piquer un peu partout, là où ça fait mal. Et bonjour à tous, au revoir et bonne journée.
Bonjour Daniel. Alors depuis cet été, la population et les élus du bocage virois sont mobilisés contre la fermeture de la maternité de Vire dans le Calvados. Malgré une multiple mobilisation, des grandes manifs avec tracteurs et baguettes en tête, il y a une obstination de l'ARS et du ministère de maintenir fermée notre maternité, malgré tous les risques encourus par les mères et les enfants pour aller rejoindre les autres maternités à des kilomètres de Vire. Alors, samedi 9, nous organisons une opération ville morte pour que Vire ne devienne pas un désert médical, avec blocage de la ville, blocage filtrant, donc de 10h à 12h. Nous donnons rendez-vous à ceux qui souhaitent nous rejoindre à 9h15, place du Château, pour répartition sur les sites du blocage. Merci, c'était Jean-Marie du collectif Santé de Vire.
Derrière la revendication démocratique, derrière ceux qui affichent les belles valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, le primat de la loi, etc., etc., il y a surtout... Et alors derrière, en plus, la critique des dictatures communistes, il y a surtout l'idée qu'il faut surtout pas que les pays deviennent communistes ou socialistes, parce que ça serait très embêtant pour ceux qui peuvent faire fortune. En fait, toutes ces revendications sont dictées par ceux qui ont tout intérêt à ce que continue la liberté de circulation, de quoi, surtout de la monnaie. Et alors, il y a des gens, bien sûr, qui enfourchent le balai de la démocratie, ou des droits de l'homme, ou de la loi, machin, et puis ils ne voient pas qu'ils sont en train de servir les intérêts d'un système qui est profondément inégalitaire et qui ne tient à la démocratie que parce que c'est le meilleur système pour faire perdurer ces inégalités.
Je voudrais rassurer l'auditeur d'hier à propos de la dette. Qu'il n'ait pas peur, la dette, on ne la paiera pas. Ni nous, ni les Italiens, ni les Espagnols, ni les Grecs, on ne la paiera pas. Pour une raison très simple qui s'appelle l'histoire. Depuis que les hommes se sont organisés en société et ont inventé l'argent, jamais, je dis bien jamais, une seule de ces sociétés, qu'elles s'appellent empire, consulat, royaume, république, qu'elles soient une dictature ou une démocratie, jamais une seule de ces sociétés n'a réglé sa dette. Sauf, évidemment, à y être contraint par la force physique. Quelques exemples, Philippe le Bel, en son temps, a fait massacrer et brûler sur le bûcher ses créanciers, les Templiers, qui n'étaient pourtant pas des demi-portions. Les Russes, après la Révolution, à propos des emprunts russes, lorsqu'on leur a demandé de nous les rembourser, nous ont dit gentiment « Ah ben non !» Et ces emprunts traînent toujours au fond des tiroirs. Puis par la suite, on a trouvé d'autres moyens comme l'inflation ou la dévaluation. Enfin bref, tout au long de l'histoire de l'humanité, on a toujours trouvé un moyen de ne pas régler la dette. Donc tout va bien, qu'on arrête de nous emmerder avec ça.
Oui, eh bien alors moi, je suis comme le président, je vais écouter le président, je m'indigne d'avoir voté. Un mec de gauche qui fait pire que le petit nain arrogant qu'on avait avant. Ciao.
Ciao, merci pour ces messages. Chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, auditrices modestes et géniales, les disparus volontaires, ils sont 30 d'ici à demain, en l'espace de 24 heures. Ils sont 30 dans notre pays à disparaître. On les appelle les disparus volontaires. 11 000 par an disparaissent ainsi. Vous connaissez ce sujet, ça revient assez souvent dans les reportages, dans les médias, avec les questions. Qu'est-ce qui les pousse à partir sans se retourner? Comment leurs proches endurent-ils ces absences souvent définitives? Existe-t-il un moyen d'entrer en relation avec eux? Etc. Aujourd'hui, on va consacrer cette heure à, non pas à une enquête, on va laisser ça aux services de police qui font ça très bien, à des associations qui se spécialisent dans la recherche de ces disparus volontaires. On va pas faire une enquête, c'est pas une enquête, c'est une absence. Ça va être une heure d'absence. Qu'est-ce que c'est que cette absence? Qu'est-ce que c'est que c'est ou ce disparu, parce qu'on ne va évoquer qu'un seul disparu, qui ne veut pas renouer. Il ne veut pas renouer. Mais pourtant, le lien est là. Le lien est plus fort et plus violent que jamais. Et l'absent est le plus présent de tous. On connaît ce stratagème de l'affection quand on est enfant. On rêve de ça. On dit, oh là, moi je vais partir comme ça. Ils vont voir à quel point je manque et à quel point ils ont eu tort de ne pas m'aimer suffisamment. Et comment je vais devenir omniprésent dans leurs préoccupations. On le fait de temps en temps. On fugue, on fuit. On revient, heureusement. Et ça, ça finit bien. Parmi les disparus volontaires, quand c'est des histoires comme ça, voilà, c'est le retour de l'enfant prodigue. Hein, celui pour qui on tue le veau gras aux grandes âmes de l'autre frère qui a été si régulier, si brave, et qui n'a pas dilapidé la fortune familiale. Et bien, lorsque le fils prodigue rentre, le père tue le veau gras et pardonne tout, parce que voilà, c'est l'amour du père. C'est des choses importantes. Dans Là-bas, si j'y suis, on parle souvent de choses encore plus importantes, semblerait-il. La politique, la société, les luttes, etc. Et on continue, vous inquiétez pas, mais on n'est pas prêt d'arrêter. Mais il y a aussi ces choses extrêmement importantes qui sont ce qu'il y a entre lui et elle, entre lui et lui, c'est le lien. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand ce lien est distendu, qu'est-ce qui se passe là? C'est très très important. Vous allez voir, il y a forcément un moment, une minute, et sans doute davantage, qui vont vous rappeler à ces liens, à ces nœuds, à nouer et à dénouer les lieux où se nouent ou se dénouent nos vies avec les nôtres. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Jean de là-bas, si je suis. Si vous êtes pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire, ce message va vous plaire. Le 9 mars, samedi qui vient là, une chaîne humaine va se déployer à Paris. Rendez-vous à 13h30 à la Défense, autour de l'Assemblée nationale, autour du ministère de la Recherche et d'autres lieux de pouvoir. Pour vous renseigner, rendez-vous sur le site www.chainehumaine.org. Mais ce n'est pas que pour les Parisiens. Des cars partent de toute la France pour rejoindre cette manifestation. Des places sont encore disponibles. Donc rendez-vous sur le site www.chainehumaine.org.
Oui, bonjour, c'est Laurent Agnor. Hier, quand j'ai allumé France Inter, entre midi et deux, je suis tombé sur le journal de 13h, et c'était une interview de Pierre Lellouch, député UMP. Alors, il parlait d'un ancien président démagogue qui était copain avec certains dictateurs, notamment Kadhafi, je ne sais pas s'il a cité Bachar el-Assad. Et je me suis dit, bah, dis donc, quelle réaction pleine de lucidité et quel recul suite à la première interview de Nicolas Sarkozy après son éviction. En fait, j'ai attendu un petit peu et j'ai vu qu'il parlait d'Hugo Chavez. Sans commentaire.
Avis aux résistants. Le Forum social mondial de Tunis approche. Il aura lieu du 26 au 30 mars. 26 au 30 mars à Tunis. Nos amis tunisiens ont bien besoin de nous. Donc, pour Internet, www.fsm2013.org. Il y a également un site hébergement@fsm2013.org. Venons nombreux.
C'est ici la dernière fois que tu as vu ton frère, Jean-Marie?
Moi, mon souvenir, c'est ici, c'est dans la véranda, ici. C'est vraiment là, quoi. Mon dernier souvenir de lui, c'est ici, quoi. C'est dans la véranda, là. Qui donne sur le jardin, avec les baies vitrées qui donnent sur la pelouse, le jardin, les arbres.
Ouais. Il avait quel âge à ce moment-là?
Quand il est parti? Mm-hmm. À peu près 26-27 ans.
Et toi, t'avais quel âge?
Moi, j'avais à peu près 10 ans, peut-être un peu moins.
Alors voilà la lettre, Vincent, que tu avais écrite pour ton frère, disparu il y a plus de 30 ans. Et c'est une lettre qui est parue dans le premier numéro de L'Impossible, du journal L'Impossible, que tu as écrite pour le journal, hein, c'est ça?
Oui.
C'est la première fois que tu lui écrivais?
Oui. La première fois, oui. Cher Jean-Marie, je t'écris de loin, car je ne sais pas où tu es. Tu es peut-être à des milliers de kilomètres d'ici, tu es peut-être encore en France, tu es peut-être à quelques mètres de moi, et je ne sais pas où tu es. Si tu as une adresse, si tu as une maison, si tu es couché, si tu es debout, si tu es vivant ou si tu es mort. Et si tu lis ma lettre, c'est que quelque part nous sommes au même endroit, nous nous sommes rejoints. Tu t'es reconnu, tu m'as reconnu. Tu sais où je suis, bien que moi je ne sache encore rien de toi, où tu es, ce que tu regardes. Où es-tu à cet instant? Où vas-tu? Avec qui parles-tu? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu lis?
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis avec Anaël Verzeau et Vincent Guédon, une longue, longue absence.
Flight number 2, arriving from New York.
Là, on a des champs, hein, de chaque côté de la route.
Ah oui, oui. Il n'y a pas beaucoup d'herbages par ici, c'est la culture. Le tonton qui habitait là, à la pinçonnière.
C'est quoi? C'est du blé?
Du blé et du maïs. Surtout du blé et du maïs. Un peu d'orge. Et aujourd'hui, c'est encore ça.
Il y a 50 ans, c'était ça aussi?
C'était ça aussi. Il y a que les rendements n'étaient pas les mêmes que maintenant.
Ah, oui.
On est arrivé à des performances maintenant. Et puis les moyens de travail n'était pas les mêmes, car moi je labourais avec des chevaux dans les champs à grand-père, alors que maintenant c'est les tracteurs et souvent l'entreprise.
Et là on arrive à Gênes-sur-Glaise.
Voilà.
Lotissement, le vieux lotissement.
Lotissement des Prioris.
Des Prioris?
Prioris, tout simplement parce qu'au bout de la rue là, il y a une ferme qui s'appelle les Prioris. Voilà.
Et voilà la maison.
Là, sur la gauche.
Voilà.
C'est un après-midi d'été. Sous un arbre, bouquins, journaux, paresse, et puis une revue, L'Impossible, une petite revue, petit format, L'Impossible. Édito, papier, photo, et puis cette lettre. Cher Jean-Marie, je t'écris de loin car je ne sais pas où tu es peut-être à des milliers de kilomètres d'ici, tu es peut-être encore en France, tu es peut-être à quelques mètres de moi, et je ne sais pas où tu es. On s'attend à un exercice littéraire, une acrobatie narcissique, le blog d'un Kafka de Montreuil-sous-Bois. Et puis non, c'est sincère, c'est vrai, c'est vous, c'est moi, c'est l'absence d'un être cher. C'est une absence sans bord. Pas la mort, non, mais une absence sans bord. Une longue, longue, longue absence. Chaque jour, on le disait en commençant, des personnes disparaissent. 11 000 par mois, 30 par jour. Des enfants fugueurs, des malades mentaux, des personnages qui changent de vie soudainement. Des disparitions inexplicables, des envoûtés qui partent dans des sectes, et puis des fuyards, et puis des évadés. La police et les associations recherchent ces perdus de vue par toutes sortes de moyens. Ils aiment dire que c'est comme une aiguille dans une botte de foin. La police se charge des disparitions inquiétantes dans l'intérêt des familles. Combien de disparus volontaires sont retrouvés ? C'est pas facile à dire. Un certain nombre ne souhaitent pas être retrouvés. Il y a les évadés, oui, les évadés de prison et les évadés de ce qui leur semble être une prison. Le mystère des disparitions volontaires est un sujet médiatique, souvenez-vous de Perdu de vue. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas une enquête, c'est une absence, je le disais en commençant. Mon dernier souvenir de lui. Et les enfants rêvent de ça, de mourir pour emmerder leurs parents. Et mieux encore que mourir, c'est fuir, la fugue. Un mot sur la table, je pars pour toujours, n'essayez pas de me retrouver. Une absence plus belle que la mort. Jamais, là-bas, si j'y suis, n'aura aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Une longue, longue absence.
Frère mon petit, si le ciel est superbe quand il est vert de gris, mais que tes yeux s'y perdent, viens vite me retrouver dans ma chambre en secret. Je saurai leur rappeler la couleur qu'ils avaient. S'ils souffrent d'amnésie, je teindrai mes murs en bleu pour leur faire un abri. On sera que tous les deux, mon frère. Elle est superbe quand il est vert de gris, mais que tes yeux s'y perdent. J'ouvrirai le carton où je range mes souvenirs. On retrouvera nos sourires et nos vieilles chansons. Si tu t'en souviens pas, je relirai pour toi nos lettres et nos saisons. Tu t'étonneras peut-être.
Alors là, Vincent, on est à Gênes-sur-Glaize.
Gênes-sur-Glaize.
Ça, et on est dans...
On est donc dans la maison de mes parents, qu'ils ont fait construire en 1970. Une maison neuve, enfin, qu'on appelait une maison neuve. Et c'est une maison, donc, mon frère a racheté à mon père. Et maintenant, c'est mon frère qui habite ici.
Ton frère aîné ou ton petit frère ?
Mon frère... c'est moi le plus petit. Donc, mon frère qui a 2 ans de plus que moi, François. Voilà, maintenant c'est sa maison. Enfin, quand même, on vient souvent ici.
Ça reste la maison de la famille.
Un peu, ouais, un peu. Même ouais. Si c'est chez lui. Mais...
Alors, c'est un pavillon, hein.
C'est un pavillon, une maison qui a été un peu modifiée avec le temps. La véranda, elle n'y était pas, hein, par exemple. Si là, on va rentrer dans la cuisine. Mon père, qui était maçon, il a fait une véranda.
Ah, ton père était maçon ?
À un moment donné, il a été maçon. Ouais. Il a fait une véranda, il a construit le garage. Il a construit la cabane qui est là-bas, dans le jardin.
Et c'est ici la dernière fois que tu as vu ton frère, Jean-Marie ?
Moi, mon souvenir, c'est ici, c'est dans la véranda, ici. C'est vraiment là, quoi. On fumait dans la véranda, mais pas à l'intérieur de la maison. Donc c'est ici que mon dernier souvenir de lui, c'est ici, quoi. C'est dans la véranda, là. qui donne sur le jardin, avec les baies vitrées qui donnent sur la pelouse, le jardin, les arbres. Il fumait, il pensait à des choses dont personne ne sait ce que c'est, quoi, en fait. Il parlait pas beaucoup, il était un peu taciturne. Le jour de son départ, en fait, moi je me rappelle pas de ce jour-là. Moi, mes souvenirs, ils vont avant ça, mais le jour exact, je ne sais pas lequel c'est, puisque même mes parents ne savaient pas que c'était ce jour-là qu'il partait, quoi. Ils ont su qu'il partait quand il n'a pas donné de nouvelles au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années.
Quel souvenir tu as de lui, à part la cigarette ?
J'ai du mal. Ce qui me vient en premier, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Et donc, il avait toujours un livre à portée de main. Et donc, quelqu'un qui s'écartait un peu pour lire. Donc, il n'était pas tellement dans la discussion, la conversation et tout ça. En même temps, j'ai des souvenirs de repas de Noël où il était là, normalement. Et je le vois servir. Il y a une photo où on le voit servir du vin. Il y a plein de gens autour de la table et il sert du vin et tout a l'air de bien se passer, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, il ne savait même pas lui-même qu'il allait partir. Peut-être que même le jour où il est parti, peut-être qu'il même lui-même ne savait pas qu'il partait.
Qu'est-ce qu'il lisait comme livre, par exemple ? Tu te souviens ?
Il lisait Daphné du Maurier, entre autres. Une romancière américaine ou anglaise, je crois. Il y a plein de cartons de livres. Dans le grenier, là, il y avait plein de cartons de livres. Il lisait toutes sortes de choses. Ouais. Des policiers, Daphné du Maurier... C'est des cartons de la famille que mes parents ont récupérés après son départ. Ils ont mis toutes ses affaires dans des cartons, et puis ils ont mis les cartons dans le grenier.
Et vous êtes 5 frères ?
Donc on est 4 frères.
Et toi, t'es le dernier, et Jean-Marie, c'est l'aîné.
Voilà, je suis le dernier.
Est-ce qu'il a laissé quelque chose avant de partir ? Est-ce qu'il t'a parlé ? Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un ?
Non, non, il a parlé à personne. Il a parlé à personne du tout. Il est parti comme ça, quoi. Dans un moment où ça allait plutôt bien pour lui. Parce qu'il avait un travail, une voiture. Il avait trouvé un travail de représentant en quelque chose. Je ne sais pas en quoi. Et donc, il devait sillonner les routes de France avec sa voiture. Et puis, voilà, quoi. Donc, ça allait plutôt bien parce qu'il avait un travail. Et qu'on pouvait croire qu'il allait vivre normalement. Et sans doute, il n'a pas voulu vivre normalement comme tout le monde. Et il est parti. Lis-tu encore Daphné du Maurier ? Je me souviens de toi, feuilletant un livre en plissant tes lèvres, tes yeux bleus brillants. Je fouillais dans tes affaires. J'y trouvais une petite boîte. Je l'ouvris et découvris des pierres. 5 petites pierres d'Amérique bien rangées dans un étui en polystyrène. Et sur le plastique transparent qui le recouvre, 5 noms imprimés. Plomb argentifère, trémolite, aragonite des griffons, minerai de cuivre et pyrite de fer. J'ai toujours gardé ces pierres avec moi. Elles me suivent partout. C'est mon Amérique secrète. C'est ton enfance. Est-ce que tu t'en souviens ?
Il avait quelle relation avec tes parents ?
Ben, en fait, je sais pas. Je sais pas trop dire quelle relation il avait avec mes parents.
Je ferme la porte de la véranda parce qu'il fait un peu froid. Oui.
Jean-Marie, il a vécu beaucoup à Laval. Mes parents étaient à Laval jusqu'en 1970. Après, ils sont revenus dans le village de ma mère, ici à Gênes-sur-Glaise. Nous, on a eu une petite part de notre enfance à Laval. Et puis après, notre enfance, c'était ici, dans cette maison, dans le jardin, à Gênes-sur-Glaise.
C'est un village, hein ? C'est un tout petit village.
C'est un village de 800 à peu près habitants, 800 à peu près.
Et toi, t'allais à l'école ici ?
Ouais, j'allais à l'école primaire, ici, là-bas, à l'école catholique, en bas, là-bas.
Et lui, il était, Jean-Marie, il était allé à la même école que toi ou...
Non, lui, il était à l'école à Laval. Mon père travaillait dans un lycée privé, l'Immaculée Conception, à Laval, et Jean-Marie devait être dans une école privée, une école catholique, quand il était tout petit, quoi. Mmh.
Comment il était physiquement ? Il te ressemblait ?
Physiquement, je le vois plutôt aux cheveux plutôt bruns, les yeux bleus, plutôt grands, mais comme j'étais petit, peut-être c'est ma vision de lui, plutôt fin et grand, plutôt beau, ouais, assez beau. Il avait une mèche sur les yeux, qui lui redescendait sur les yeux. J'ai pas de photo, en fait. J'ai pas vraiment de photo. Ici, il y en a pas, je crois, je sais pas. Il y a peut-être une qui traîne dans des cartons, mais je pourrais pas la retrouver. C'était un beau jeune homme, je pense.
Tu lui connaissais des histoires amoureuses et il venait des fois avec des amis, eux ?
Non, je ne connaissais pas du tout une histoire amoureuse, non. Mais il faisait du hockey sur gazon, donc il avait forcément des copains à Laval et tout ça. Mais moi, je ne les connaissais pas, ces gens-là. Je lui connais pas de copains ni de copines, en fait. Parce que c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui... Bah, comme des gens, des fois, ils parlent pas beaucoup, quoi.
Est-ce que vous avez cherché à essayer de le joindre, Jean-Marie ? Vous lui avez envoyé des lettres ? Comment vous avez fait quand...
Bah, on pouvait pas, parce qu'on savait pas où il était. Mais mes parents l'ont cherché via des associations. Mais forcément, ils ont pas pu le joindre, jamais. À part cette fois-là, où il avait été vu... dans le sud, dans une espèce de centre médical pour gens de la route, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, où l'infirmière qui connaissait mes parents et qui connaissait cette histoire l'a reconnue dans la chambre, a tout de suite joint mes parents pour essayer de les mettre en contact, et puis en fait, il a refusé de les voir. Il a refusé de les voir, quoi, de leur parler au téléphone.
Et il était comment à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ?
Bah, a priori, vu la description de cette infirmière, de cette dame-là, bah, c'était quelqu'un qui est sur la route, quoi. Un vagabond, un clochard, un SDF, je sais pas comment on appelle ça. C'était quelqu'un qui travaillait pas. Peut-être que si, en même temps, on peut...
Et c'était il y a combien de temps ?
Quand il a été revu, je crois que c'était à peu près 10 ans après...
Comment ça s'est passé ensuite ?
Et après, rien ne s'est passé. Enfin, c'est une histoire où rien ne se passe, en fait. C'est que les choses, une absence, rien ne se passe, quoi.
D'après toi, pourquoi il est parti ? Il en veut à la famille ? Il en veut à quelqu'un ? Il s'est passé quelque chose ?
Bah ça, je peux toujours imaginer des choses, mais je ne sais pas pourquoi il est parti. Non, je ne sais pas du tout.
Qu'est-ce que tu as imaginé ?
Mais je ne sais pas. Je ne veux pas trop raconter ce que j'ai imaginé, en fait. Vraiment. Je n'ai pas trop envie de le dire. Mais... c'est une histoire entre lui et ses parents, quoi. Donc, des choses très intimes... Que je peux pas raconter comme ça. Et d'ailleurs, je me trompe peut-être, donc je préfère pas en parler, en fait. Comme ça, c'est...
Des choses que j'ai lues à propos des disparus volontaires, puisque c'est comme ça qu'on appelle les majeurs, en fait, qui décident de partir. Ça peut être quelqu'un qui vit mal son homosexualité, ça peut être quelqu'un qui s'entend pas du tout avec ses parents pour des conflits effectivement liés à des choses intimes qui sont difficilement racontables.
Peut-être, bah, c'est des choses comme ça sûrement. Ouais.
T'as pensé qu'il reviendrait ?
Bah ouais, bah souvent j'ai pensé qu'il pouvait revenir comme mes parents le pensaient parfois. Qu'un jour on le reverrait arriver par la route, dans une voiture ou pas. Enfin, vu son caractère, ça serait étonnant quand même. Mais bien sûr, j'ai parfois pensé qui puissent revenir, par exemple au moment de Noël, des fêtes de famille, quoi. Mmh. Ouais.
Et puis, à un moment donné où tu as cessé de penser qu'il reviendrait, ou tu penses toujours que c'est possible ?
Non, en fait, moi, comme j'étais petit, j'y pensais pas du tout. C'est plus tard, en fait, pour moi, que j'ai commencé à penser à lui. C'est plus tard, beaucoup plus tard, en fait, quand j'avais plus vers les 20 et quelques années, quoi. C'est là que j'ai commencé, je sais pas pourquoi, à penser à son absence, en fait. Avant, j'y pensais pas. Mais en même temps, après cette nouvelle qu'on avait eue là, de par l'infirmière, là, quand quelqu'un dit ça, quand il refuse de parler à ses parents au téléphone, après, c'est plus difficile de penser qu'il va revenir comme ça, quoi.
Tu penses que tu le reconnaîtrais aujourd'hui ?
Je pense que, ouais, quand même, que peut-être dans son regard, je le reconnaîtrais, ouais. Mais je sais pas. Ça dépend comment il a vieilli, quoi. S'il a vieilli comme un clochard alcoolique pendant 25 ans, 30 ans, là, je pense que je ne le reconnaîtrai pas. Mais je sais pas, c'est très difficile à savoir.
Il est né en quelle année, en fait ? Il aurait quel âge, là ? Il a quel âge aujourd'hui ?
55, il est né en 55, donc on est en 2013. 58 ans. Ouais.
La cuisine était comme ça ?
Oui, elle était comme ça. Ouais. Mm. Tout était comme ça.
Il y avait la petite croix, là, au-dessus de la porte.
Oui. Il y avait la croix.
Il y avait l'horloge.
Mmh. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein.
Et là, il y a comme une tapisserie, hein, avec des arbres dorés d'automne sur le mur.
Je pense que c'est une photo qu'avait choisie ma mère. Toujours les arbres, comme les arbres de dehors, quoi. Tiens, mon père, il revient dans le jardin. Il va voir son jardin. Il va peut-être soigner ses poules. Je sais pas s'il y a encore des tourterelles dans la volière, là. Et le voilà qui arrive. Et je pense qu'il va commencer à avoir faim.
Là, c'est ta mère ?
Ouais.
Il y a un portrait là-haut.
Il y a un portrait de ma mère avec ses lunettes, très souriante, qui pose. Et là, on entend mon père arriver. Ah !
Alors, ça se passe bien.
Tu faisais quoi, là ? Tu soignais ?
J'étais soigné mes poules.
Ah, bah, elles sont là dans le...
Oui.
Ah, elles ont changé de place.
J'ai encore 3 poules. 2 poules et un coq. Parce que je vais avoir des petits poussins d'ici un moment. Alors, pour que les poules puissent pondre, il faut que je leur donne du verre.
Bah oui.
Alors, je leur donne de la salade. C'est toute ma vie, vous savez.
Pourquoi tu les as changées de place ? Pourquoi elles ne sont pas là ?
Tu sais pourquoi ? J'en avais 7 ou 8 qui étaient dans le parc, un bon matin, toutes bouffées.
Des rats ?
Les chats.
Ah, les chats ?
Les chats. Il y a 2 gros chats, salauds. Alors, voilà, ils les emportent. Alors, je les ai fermés là. Comme j'ai plus de biquettes, j'avais encore un petit bouc. Mais François, il s'en est arrangé, il me l'avait retenu. Et puis, ils l'ont tué au week-end, là. Ça fait 10 ans qu'elle est partie, mon épouse. Vous voyez, elle est là-bas.
Comment elle s'appelait, Willa ? On a une photo.
Marie-Jo.
Hein. Marie-Jo.
Marie-Jo Fiat. Fiat.
Fiat.
Et Fiaté. Aucun rapport avec les Fiat d'Italie. Non, mais c'est Fiat, elle s'appelait. Et alors, quand je pense que ça va faire 10 ans cette année qu'elle est partie.
Eh oui.
Oui.
Mmh. Oui, oui. Est-ce que tu sais que maman est morte et que j'ai vu son dernier souffle, qu'elle est morte du cancer, cette maladie qui emporte la plupart des vieux du village et aussi parfois les plus jeunes, une vague qui grandit chaque jour de plus en plus sans que personne finalement y puisse quelque chose. Tu sais la vie qu'elle menait notre mère et l'énergie qu'elle mettait à cultiver son jardin. Un jardin magnifique, luxuriant, qui faisait l'admiration des voisins. Mais tous ces légumes et ces fruits généreux ne lui ont pas évité la maladie, au contraire. C'est peut-être la terre elle-même qui est malade. Notre mère est morte en 9 mois. Elle a lutté, lutté, et puis on dirait qu'un jour, elle s'est tout simplement mise à attendre. Sais-tu qu'elle a fait le voyage à Lourdes ? En train cette fois-ci, aidée de notre père. Un voyage d'une 10aine d'heures, allongé. Elle a trouvé la force d'aller toucher l'eau de la grotte. Pas pour le miracle, non. Plutôt comme si elle touchait du doigt le visage du Christ. L'eau qui purifie. Il fallait. Avant de mourir, de partir, Comme papa disait, elle est partie. Elle s'appelait Marie, notre mère. Tu sais qu'elle s'appelle Marie-Josette. Un jour, nous sommes allés la voir à l'hôpital, unité de soins palliatifs, et ses yeux étaient ouverts. Elle nous a dit « Je vais mourir. Vous le saviez que je vais mourir, et vous ne me l'avez pas dit. » Et la morphine, compagnon de voyage, l'a replongée dans ses limbes blancs. J'ai vu son dernier souffle, je te l'ai dit, le 17 juillet 2003. À 11h, je l'ai vu. Il y avait une machine à côté de sa tête pour l'aider à respirer. Son souffle s'est amenuisé peu à peu, s'est raccourci, et puis il n'y a plus eu de souffle. C'est difficile de raconter ça. Elle est morte, comme on dit. Elle est passée. Et le midi, sur la pelouse du jardin, on a dressé une grande table et on a bu l'apéro. Et c'est comme si elle était là, parmi nous. J'essaie de me souvenir. J'avais écrit sur un petit carnet des choses sur ces jours-là, mais je l'ai perdu. Est-ce que parfois tu revois son visage? Peut-être qu'il te revient en songe la nuit quand tu dors. Peut-être l'as-tu oublié. Peut-être y penses-tu chaque matin, et chaque matin tu lui parles, et peut-être qu'elle te répond. Mon cher Jean-Marie, mon frère, je t'écris de loin. Où es-tu à cet instant? Si tu es sur la route, où vas-tu? Avec qui parles-tu? Est-ce que tu portes la barbe? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu lis?
Là, on sort dans le jardin.
Là, c'est un endroit qui, avec ma mère, ils avaient appelé ça la qualité de la vie. Ils appelaient ça comme ça.
C'est une petite cour.
Et c'était ici qu'ils venaient se reposer, mettre des fauteuils de jardin, tout ça.
Toi, tu y allais aussi?
Bah oui, oui, on mangeait là, avant. Il y avait la grande balançoire ici, où on s'amusait quand on était petit. Il y avait un orme là qui marquait la délimitation du champ. On allait chercher le lait là-bas à la ferme quand on était tout petit. On traversait le champ pour aller à la ferme avec notre pot à lait, le pot au lait.
On arrive en fait de l'autre côté de la maison.
Ouais, devant la maison.
Devant la maison. Et du coup, on voit les autres maisons du village.
Le lotissement.
Ah, il y a des champs là-bas. Ouais. Alors...
Et c'est tout un peu pareil, quoi. Chacun son enclos, son jardin. Chacun essaye d'avoir sa petite terre à lui. C'était les mêmes maisons. Non, il n'y avait pas celle-là. Ici, c'était un terrain de pétanque avant. Et avant, il y avait une petite ferme là-bas. Aussi, des fois, on allait chercher le lait là-bas. Il y avait une vache, une dame avec une vache, quand on était petit. On voit des gens qui se promènent.
Mmh. Quatre promeneurs là-bas au loin.
Des personnes âgées.
Ouais.
Qui visitent.
C'est une grande rue, hein, juste devant nous. Ouais. Il fait beau. Froid. Il n'y a pas de voiture du tout. Hein.
Pas beaucoup, non.
On est où? On est sur une petite place.
On est sur la place du marché de Château-Gontier. Je vais trop vite.
Là, on cavale derrière ton père. Hein.
Ouais.
Chaque jeudi, je viens prendre un café avec des amis. Et de préférence, des cafés, il y en a un là. Mais c'est celui-là qui est mon préféré. Parce que c'est une journée que j'ai passée ici avec mon frère Pierre. Et c'est là que nos patrons, les deux Fiat, nous ont embauchés tous les deux pour venir à Gênes. C'est là le tournant de ma vie. J'avais 20 ans.
Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?
Je suis allé travailler à Gênes.
À la Touchasse.
Mais c'est quoi la Touchasse?
La Touchasse, c'est la ferme des parents. Oui. Eh bien, à la Touchasse, je suis arrivé donc comme ouvrier agricole, mais je connaissais le travail de la ferme parce que depuis 12 ans, je travaillais. J'aurais donc pu faire un fermier, j'aurais pu prendre la ferme.
On va à droite, là. Puis j'avais pas l'intention de prendre la ferme.
T'as surtout l'intention de prendre la fille.
Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai préféré.
Vous êtes tombé amoureux de la fille.
Oui,
qui
voilà.
À la ferme.
C'est la seule raison pourquoi moi, je suis pas parti à Paris comme mes frères. Parce qu'à cet âge-là, 20 ans, l'âge où on part à Paris, eh ben, je suis parti à la Toujasse et j'y suis resté.
Ah, maintenant, vous habitez là, alors.
Voilà, entrez.
Albert Guédon.
C'est chaud.
Ouais, ça fait du bien.
Voilà.
Le, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Le temps n'est jamais perdu s'il est donné aux autres.
J'y crois. Alors, tout ça, c'est des photos classiques de famille, de toutes sortes, qui vous intéressent.
Vous avez des photos de Jean-Marie ?
Très peu, mais j'en ai, je peux en trouver.
Mais évidemment, on n'en a jamais eu beaucoup, parce que depuis 30 ans, voyez-vous, depuis 30 ans...
Là, c'est un album.
Le voilà.
Il est là.
Quand on est absent...
Tu dis qu'il avait une mèche. Je t'ai dit qu'il avait une mèche, ça c'est les fils.
Il n'est même pas là.
Il est là.
Oui, regarde. Il est là, oui.
En fait, il n'est pas brun. Il n'est pas
voilà,
vraiment brun.
Là, on voit bien, hein, oui. Là aussi, ouais. Sa communion.
Il a 17 ans, pas par là, 17, 18, je ne sais pas.
Oh non, pas 17 ans, mais...
Non, 16 ans, je ne sais pas.
Oui. Mmh. Tout ça, c'est lui, figure-toi. Ouais. Tout ça, c'est lui.
Ah oui, il avait fait sa communion.
Ah bah oui. Nous aussi. Là, c'est François. Non, ça, c'est Luc, ça. Ouais. Et puis ça, je sais pas.
Luc et François.
Oui, et Jean-Marie. Puis Jean-Marie. Oui.
Ah, Jean-Marie, Albert, Yvon. Ça,
oui.
C'est...
Voilà, c'est lui.
Sa carte d'identité. Vous l'avez mise comme si c'était raison. Une photo.
Ah oui, c'est vrai. Guédon, Jean-Marie, 1m70.
C'était déjà jeune, ça, tu vois.
Jeune,
c'est le 18 février 1977. 55, il avait 22 ans. Et maintenant, veux-tu que je te parle de tes frères et de ton père ? J'hésite. Sont-ils morts pour toi ? Les as-tu effacés ? Je serai bref. Imagine qu'en presque 30 ans, les choses ont un peu changé. Papa est seul. Il a lui aussi, par deux fois, failli faire le voyage du navire Cancer, mais il s'en est tiré. La première fois sur le pont Prostate, il a sauté, il est revenu à la nage. La deuxième fois sur le pont Estomac, il a sauté, il est revenu à la nage. Papa était malade, c'est maman qui est partie. Maman était forte, c'est papa qui s'occupe du jardin et de ses bêtes. Les quatre ormes sont morts, eux aussi d'une maladie, la graphiose, autre sorte de navire. Tous les ormes de la région sont partis en même temps. Tu te souviens des deux ormes qui soutenaient la poutre de la balançoire ? On y grimpait chaque jour. François était agile, j'étais déjà peureux. Mais toi, tu étais grand, très grand, et déjà tu regardais vers le lointain. Mais il y a toujours les jonquilles de notre mère dans le jardin. Elles sont l'esprit du lieu, elles embaument. Et Luc, le plus proche de tes frères, en passant, goûte leur parfum maternel.
Mon paquet de tabac.
Tu l'as fait dans ta poche ?
Ouais, mais c'en est un autre. J'ai perdu
là,
dans la...
à gauche. Ah non.
En tant que parent, on a vécu ça d'une certaine façon. Encore que ça a été différent pour moi que pour mon épouse. Pourquoi ? Tout simplement que pour une maman, perdre son fils, c'est toujours dur. Mais l'homme, lui, le mari, il veut braver, comme toujours, les hommes, ça a tendance un peu à braver. Alors, je réagissais dans mon cœur, j'en étais tout aussi mal à l'aise. Mais pour braver, je disais, dis donc, il est majeur, il sait ce qu'il a à faire, il reviendra quand il voudra. Alors que pour elle, c'était différent. Des années après son départ, eh ben, le dimanche, on ne sortait pas, tout simplement. Eh bien, parce que sa mère disait, c'est peut-être après-midi qu'il va rentrer. Et à cause de ça, on était bloqués pendant des années. J'aurais bien pris un café.
Eh ben, on va boire le café.
Ah ben, et puis après, je vous laisse, et puis on va fermer. Mais...
J'ai peur que vous ayez froid. Voilà.
C'est quoi ce sucre-là ?
C'est des sucres.
Des sucres blancs.
Ah bon, tu prends pas ça ?
Ah oui, moi je prends du sucre. Moi. C'est à partir de la sixième qu'on a eu des problèmes avec Jean-Marie. Ça ne s'est pas très bien passé. Il n'a pas passé le bac. Non. Et puis après, il avait jeté des petits boulots. Il avait un logement à Laval. Il a été actif dans une équipe de volley. Ah oui, t'es crack, oui.
Non, de...
Ok, sur gazon. Ok, sur gazon. Et c'était un crack, là.
C'était un crack, ah oui.
Ah oui, dans l'équipe sur Laval de hockey sur gazon, il y avait une équipe là-dedans. Il avait pourtant des bons copains.
Oui.
Il était resté toujours un homme seul.
Oui.
Et taciturne. Oui. Et puis, ben voilà, il revenait de temps en temps. On l'appelait. On disait, tu viens peut-être. Il repartait toujours de bonne heure. Un jour, il nous a appris qu'il avait trouvé un travail à Toulouse. Il était représentant. Et alors, il nous a quittés comme ça, simplement. Il est parti.
Oui. C'était en quelle année?
82. Oui, c'est avant-hier, hein, pour moi, c'est
après
pas loin.
Ben, ça fait plus de 30 ans.
Hein. 30 ans.
Ben oui, 93, 2003, ben dis-donc, oui. Tu te rends compte. Oui, le temps passe.
Oui.
Les moments favorables passent très vite, mais les moments difficiles passent aussi. C'est vrai,
ouais,
passent vite
c'est
aussi.
Vrai.
C'est comme ça, hein. C'est la vie. Mmh. T'es jeune, toi, tu sais pas.
Mmh. Il vous a laissé un mot, quelque chose, avant de partir?
Ah non, non. Non, et puis après, bah après on n'a jamais eu de nouvelles, c'est pour ça. On a eu beau écrire, alors j'ai fait partie pendant plus de 20 ans d'une association...
De gens qui disparaissent.
Oui, et en fait, des gens qui disparaissent, il y en a peut-être pas tous les jours, mais en France, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a à Biarnais, pas si loin que ça, là.
Mmh.
Riez jamais, ce gars-là. Riez jamais, non. Taciturne comme ça, et puis alors il fallait se suffire de ce qu'il disait, peut-être interpréter un peu. Sa mère était quand même toujours heureuse de le voir, mais évidemment si peu expansif que. Hein. Mm. Ben oui, alors ben voilà. Dans nos familles, on pourrait dire ben il a pas trop bien tourné quoi.
Mais il s'entendait bien avec vous ou pas?
On peut pas dire, on n'a jamais eu de gros ennuis, mais on n'était pas en accord, non. On n'était pas en accord, mais pas plus que, à la limite, avec les autres. Mais j'étais assez autoritaire quand même, moi. Je veux pas dire rigide, je crois pas me tromper, mais enfin un peu catégorique sur les bords, quoi. Mmh. Ben oui. Alors ben.
Vous en avez parlé souvent avec votre femme?
On en parlait, mais sans pouvoir... C'est toujours les plus près qui sont les plus désarmés. Ah oui, oui, on est bien démunis au moment. Tu veux me passer un peu de café? Ben, j'en ai encore, mais il est plus chaud.
Il est froid.
Ben oui.
Je l'ai pas laissé.
Ah ben, on pourrait le passer au micro-ondes aussi. Ouais. Ben vas-y. Merci. Oh là.
J'en ai trop.
Tu feras attention, il y a un micro-ondes tout neuf.
Ah.
Oui, il m'a dit ça. L'autre est mort.
Et vous pensez qu'il est toujours vivant?
Oh oui. Oui.
Je suis la sœur de cette lame, ce doux fleuve salé qui coule lentement aux rives de ta joue. Je suis la sœur de cette lame, ce doux chemin mouillé qui glisse calmement de ton œil à ton cou. Comme elle silencieuse, goût de miel et de cendre, et comme elle porteuse de la mer et du tombre. Je suis sœur aussi et surtout de ce temps suspendu entre nuit et lumière, entre réveil et songe. Je suis sœur aussi et surtout de ce temps éperdu entre joie et colère, entre aveu et mensonge. songe, ni larmes, ni sourires, mais les deux à la fois. Mi larmes, mi sourires, ainsi que toi et moi.
Tiens, papa. Et là, c'est une sculpture que papa il a sculpté.
Ah oui,
il a fait de la sculpture.
Ça fait partie de mon.
Là-bas. On dirait un Christ. Un peu.
Ouais, c'est un Christ.
Le bon Dieu d'Amiens.
Hein? C'est de la sculpture sur bois. Hein?
Parfaitement.
Elle est superbe. Hein?
Oui.
Magnifique. Hein? Et là, il y a le pape derrière, non? Derrière la sculpture.
Il y a
sculpture.
Le pape qu'on m'a offert, je ne sais même pas qui.
C'est une photo.
Mais c'est Jean-Paul II, ça.
Ah oui, c'est pas Benoît XVI.
C'est Jean-Paul II, oui. Oui, oui. Le prochain, on ne connaît pas encore. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder.
Là, vous avez un petit chapelet au-dessus de votre lit.
Pardon?
Là, vous avez un petit chapelet.
Ça, c'est parce que je suis en relation avec une famille de Burkina, Afrique, dont je me suis beaucoup occupé. Et il y a dans cette famille-là une religieuse qui fabrique des chapelets. Elle m'en a envoyé un. Oui. Quant à ça, c'est autre chose.
C'est quoi? C'est quoi?
N'y touchez pas.
Ah.
C'est une téléalarme. Quand je vais me trouver malade la nuit, j'appuie sur le bouton du bas et le SAMU arrive qui m'emmène à l'hôpital. Après, on téléphone à mes enfants pour dire le vieux, venez vite si vous voulez le voir encore en vie.
Vous pensez que si jamais il vous entendait parler, là, il réagirait?
Pardon?
Si ça se trouve, il va écouter l'émission.
Personnellement, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, personnellement, j'en viens, je sais d'avance, si je le revoyais, je serais démoli. Alors je ne souhaite plus tellement. Un jour, j'ai des amis, il n'y a pas si loin d'ici, du côté de Gênes, n'a pas très loin. Un fils qui est revenu, mais plus que ça, 40 ans après.
Ah oui?
Eh bien, tenez-vous bien. Son père était tout seul, ça fait un peu comme chez nous. Il s'est installé à la maison, le père a été obligé de quitter, il est rentré en maison de retraite. Il en est mort.
Oh là
là. Bah, vous savez, quand j'entends ça, je me dis, non, on reste comme ça. Puis voilà, il faut faire avec.
Ça fera un trop gros choc, vous pensez?
Oui, ah oui, ah oui, je ne résisterai pas, parce qu'on ne supporte pas à mon âge comme à 50 ans, et... Je ne résisterai pas, ça remuerait trop de choses en même temps. Hein? Parce que, ben voilà quoi, il n'est pas, peut-être pas, s'il vit encore, pas sans ignorer que sa mère est décédée, qu'il y a eu tout ça quoi. Il s'est passé des choses forcément pendant, alors ben voilà, voilà. Alors je sais d'avance que, comme on dit, ça me finirait. Ça me finirait. Alors, bah voilà. Bah voilà.
Bon, on y va?
Allez.
Là. Pardon.
Il y a des gens qui, dans leur vie, ne semblent prendre aucune décision et se laissent porter, emporter, et d'autres qui font des choix radicaux, définitifs, si définitifs qu'ils ne peuvent revenir en arrière. Je me situe peut-être entre les deux. Il va falloir que je finisse. Cher Jean-Marie, je ne prie pas pour que tu lises ma lettre. Elle est partie. La lettre est partie. Si tu lis encore, as-tu lu le Robinson Crusoe de Tournier? Et les aventures de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Je lirai peut-être prochainement un livre de Daphné du Maurier. Je t'embrasse, Vincent.
Une longue, longue absence. C'est un reportage d'Anaël Verzo. Merci à Vincent, à Albert et à Jean-Marie. Guédon, merci également à Michel Butel et Maxime Dargaud-Fons du mensuel L'Impossible. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique Programme, émission Là-bas si j'y suis, ou bien sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. Et vous avez aussi la page Facebook de Là-bas si j'y suis. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Defarre Guérit, Franck Adhérer et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Lundi à 15h, nous partons à Séville. Nous partons en Andalousie, sans lumière, sans eau et sans peur. Réclame.
D'abord, j'ai eu Sushi, mon poisson rouge. Mais depuis que j'ai gagné à Euromillions et que j'ai eu Raoul, ma baleine, j'ai acheté un aquarium vraiment plus grand. Bah oui, comme Raoul joue à saute-mouton avec Sushi. Oh, Raoul ! Papa est encore tout mouillé !
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ?
Tirage Euromillions le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 51 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter présente, au bout du compte, le nouveau film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, actuellement au cinéma.
Embrasse-la, enfin. Je comprends pas, tu voulais faire le prince charmant et puis... Tu veux pas l'embrasser, c'est pas charmant ça, je suis désolée.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui croit au grand amour et au destin. D'une femme qui rêve d'être comédienne, d'un homme qui ne croyait en rien et qui devient superstitieux. Avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Agathe Bonitzer, Arthur Dupont et Benjamin Biolay. Retrouvez Au bout du compte, un film d'Agnès Jaoui, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À lundi 15h pour Là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Il n'y aura pas de nouvelles mesures d'austérité en 2014. Promesse de François Hollande aujourd'hui après l'envoi des lettres de cadrage de Matignon au ministère. 5 milliards d'euros d'économies sont donc à trouver. C'est un effort que nous pouvons parfaitement consentir, dit le chef de l'État en marge de la cérémonie pour la Journée mondiale des femmes. François Hollande qui veut toujours qu'à la fin de son quinquennat, les comptes soient de nouveau à l'équilibre. Par ailleurs, à propos des combattants islamistes français au Mali, on ne peut pas parler de filière, dit aujourd'hui François Hollande, mais plutôt de concitoyens perdus. Au Kenya, on ne connaît pas encore le résultat définitif du premier tour de l'élection présidentielle, mais selon les premiers résultats provisoires, après dépouillement de près de 50% des bulletins, on s'acheminerait vers un deuxième tour entre le président sortant Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, le fils du père de l'indépendance kenyane. Le dernier scrutin présidentiel au Kenya en 2007 a donné lieu à de nombreuses violences. Ali Bongo Ondimba ne possède pas de biens à titre personnel en France. C'est la présidence gabonaise qui l'affirme aujourd'hui à propos de l'enquête de la justice française sur les biens dits mal acquis par son père Omar Bongo, mort en 2009. Le mois dernier, plusieurs perquisitions ont été menées dans les domiciles parisiens et du sud de la France de la famille Bongo. Deux juges enquêtent sur les conditions en fait, dans lesquelles les présidents gabonais, mais aussi congolais et de Guinée équatoriale, ont acquis leurs biens en France. Un témoin s'est invité aujourd'hui au procès de l'école en bateau à Paris. Un pédopsychiatre de 57 ans a été entendu. Il affirme avoir été victime d'abus sexuels de la part de Léonide Kamenev. Mais c'était avant qu'il ne lance son projet de voilier-école. Lorsque Léonide Kamenev était encore psychothérapeute à Toulon, le témoin, lui, était à l'époque son patient dans les années 60. De son côté, Léonide Kamenev a de nouveau affirmé ne pas être un pédophile, mais il reconnaît des caresses affectueuses et des masturbations sur des enfants à bord des voiliers. L'université d'Assas à Paris se joint aujourd'hui à l'Union des étudiants juifs de France. Elle porte plainte après la découverte hier de croix gammées sur la porte du local de l'organisation étudiante. Des inscriptions qui ont été par ailleurs condamnées par la ministre de l'Enseignement supérieur Geneviève Fioraso. Élodie Rupeau a plaidé aujourd'hui devant Bruxelles pour une politique industrielle plus affirmée. Le Premier ministre belge avait demandé à rencontrer le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, après en fait l'annonce la semaine dernière de la décision de Caterpillar de supprimer 1400 emplois sur son site belge de Charleroi, soit un peu moins de la moitié de l'effectif total. Dans le même temps, les salariés d'ArcelorMittal ont eux bloqué quelques instants les postes frontaliers avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Le nombre de tués sur les routes de France a augmenté de 6,5% en février par rapport à la même période l'an dernier, chiffre donné cet après-midi par la sécurité routière. C'est la première hausse significative depuis juillet 2012. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, à chacun sa façon de manifester en faveur de l'égalité avec les hommes. Au Pakistan, une vingtaine de femmes sont sorties en vélo dans les rues de la capitale Islamabad, sous les yeux, paraît-il, ahuris des badauds. À Moscou, une cinquantaine de personnes ont manifesté aujourd'hui devant le service fédéral d'application des peines pour réclamer la libération de deux membres du groupe Pussy Riot. 10 d'entre elles ont quand même été interpellées. Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Nous autres.
La mort pour moi n'est pas une crainte, mais une espérance.
Zoé Varier.
Hommage à Stéphane Hessel.
Je me dis que ce qui est merveilleux, c'est de penser qu'on va mourir. Parce qu'il y aura le passage vers autre chose, qui n'est peut-être rien, mais qui n'est sûrement pas la même chose.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
Ouais, tout ça pour moi.
Et oui.
Non, c'est pas moi, d'accord, ok.
On est entouré de jeunes filles aujourd'hui, Laetitia.
Bah, amusez-vous bien.
On se retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
J'aime quand je reconnais directement la voix de Oxmo Puccino.
Une voix, c'est comme un charme, dans le sens de jeter un sort.
Les chansons, au départ, je ne les fais pas pour le public.
Françoise Hardy, c'est...
Je les fais pour une personne en particulier.
C'est la mélancolie.
J'ai appris la guitare comme ça, avec un moniteur de ski qui m'a appris 3-4 accords.
On n'écoute plus que les choses essentielles pour ne pas faire du à la manière d'eux.
Il est génial.
Avec Sylvie Chapelle.
Ce Megamix France Inter, la Daft Punk.
On parle musique.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. En ce jour particulièrement consacré aux femmes, France Inter a ouvert ses portes pour toute la journée à de jeunes adolescentes. Vous avez pu les entendre depuis ce matin. Et parmi ces filles qui seront les femmes de demain, trois d'entre elles ont participé à la préparation de l'émission d'aujourd'hui. Depuis la programmation musicale jusqu'au choix de l'invité, elles seront donc avec moi jusqu'à 17h pour nous dire ce qu'elles aiment. Et bien sûr, pour accueillir la star qu'elles ont choisie pour cette journée spéciale. On parle musique avec des filles et on parle musique avec Chaïm. Bonjour les filles.
Bonjour.
Clara, Marie, Kenza, vous êtes au collège Gustave Flaubert du 13e arrondissement de Paris. Tout au long de la journée, vous avez eu l'occasion de vous faufiler dans les programmes de France Inter. Les auditeurs ont pu vous découvrir grâce à cette participation éditoriale. En trois mots, c'était comment cette journée à la radio ?
Inoubliable. Inoubliable.
Inoubliable, oui. Clara ? Marie ?
On a eu beaucoup de rencontres.
Des rencontres ?
Et du plaisir surtout.
Ah, c'est bien, c'est fatigant aussi, non ?
Oui.
Alors, c'est pas terminé, hein. Vous avez choisi une partie de la playlist d'aujourd'hui et dans quelques minutes, nous interrogerons ensemble la star que vous avez choisie. Il s'agit de Chaïm. Auparavant, je vais vous présenter aux auditeurs. Vous me dites si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Vous avez 14 ans, vous écoutez la musique pour passer le temps en faisant vos devoirs et parce qu'elle vous aide à vivre votre adolescence. Que ce soit pour découvrir la musique, suivre les artistes ou écouter ce que vous aimez, vous servez énormément d'Internet. Vous écoutez également la radio, mais comme tu le disais, Kenza, on est vraiment fan à partir du moment où on a le CD de l'artiste à la maison. Pour ce qui est des artistes en question, je dois dire que dans l'équipe, on s'est senti un peu dépassé malgré notre âge encore avouable. Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, vous connaissez le chanteur Raphaël, mais il est trop vieux. Je rappelle au passage qu'il a 37 ans. Le nom de Patrick Bruel vous dit quelque chose, mais c'est parce qu'il joue dans le film Le Prénom. Quant à Véronique Sanson et Françoise Hardy, vous vous demandez encore où vous avez entendu ces noms. Voilà, le décor est posé. On va commencer par votre sélection musicale, un duo, celui de Lady Gaga et Beyoncé. Elle chante Téléphone.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
I'm not afraid to
getting tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls, cause I'll be dancing.